En 1907, c'est le début des travaux sur la relativité générale. Puis ensuite, en 1913, Einstein commence à réfléchir vraiment sérieusement aux problèmes de gravitation et d'espace-temps. Alors là, on entre dans une notion tout à fait nouvelle qui a complètement révolutionné la physique. La physique et la géométrie étaient euclidiennes au départ. La somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Vous êtes d'accord ? Eh bien non, c'est faux. La circonférence d'un cercle est égale à deux pierres, c'est vrai ?
Non. Pourquoi vous apprenez ça ?
Pour quelle raison ? Parce que, après Galilée et après Newton, on s'est dit, tous les référentiels sont absolus. Une règle qui fait 20 cm, dans tous les cas de figure, elle fait 20 cm. La notion de temps était totalement séparée de la notion d'espace. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes que Newton, comme la périhélie de Mercure, par exemple, n'a pas été capable de solutionner. Il a pensé à l'espace-temps, et pour lui, l'espace n'existe pas sans le temps, et le temps n'existe pas hors de l'espace. À telle enseigne que pour désigner de longues distances, il y aura une révolution, on ne va plus le faire en kilomètres, mais en années-lumière. L'année-lumière, c'est de l'espace-temps. C'est la distance qu'aura parcouru la lumière à 300 000 km à la seconde pendant 365 jours, un quart, c'est-à-dire 10 milliards de kilomètres. C'est une notion qui va tout bouleverser. Ensuite, il y a eu le problème de la périhélie de Mercure. Newton, et bien avant Newton, on s'était aperçu que cette planète qui se trouve la plus proche du Soleil a une lenteur qu'on ne pouvait pas expliquer avec les théories de Kepler. Newton a essayé, il n'est pas arrivé à résoudre le problème. Avec Einstein, et bien évidemment, la résolution s'est faite toute seule. C'est-à-dire que dans la théorie de la relativité générale, c'est la matière qui déforme l'espace. Plus une planète se rapproche de son étoile, plus elle va tomber dans un cône d'attraction qui va l'attirer. Et à ce moment-là, ça va modifier sa vitesse de rotation. Quand il a évidemment publié, les gens ont été particulièrement dubitatifs et se sont dit, c'est pas demain la veille que l'on va vérifier cette affaire-là. Or, Eddington est venu voir Einstein et lui a dit, mais si ce que vous dites est vrai, si vos calculs sont bons, il nous suffit d'une éclipse. Si véritablement la matière déforme l'espace, lorsque le Soleil est occulté, une étoile qui se trouve derrière, légèrement derrière le Soleil, on doit toujours voir son rayon, car le rayon va être déformé et il va être courbé. Une éclipse du Soleil, en fait, se passait en même temps, si mes souvenirs sont bons, l'une au Brésil où une équipe est allée mesurer les arcs, donc des rayons courbés, et l'autre équipe en Nouvelle-Guinée avec Eddington. Il a pu partir avec son matériel, il est arrivé là-bas, et puis ils attendent l'éclipse, et puis l'éclipse arrive, malheureusement le ciel était couvert. Heureusement que les nuages se sont un peu écartés, et très rapidement ils ont pris des clichés. Einstein avait raison. Un photon lumineux est courbé par le Soleil. Ils ont même calculé que la Terre, sur 300 000 km de longueur pour le rayon, va provoquer une courbure de 10 mètres, mais 27 fois plus pour le Soleil, 270 mètres. Vous vous rendez compte? Jamais personne n'est arrivé à infirmer les théories d'Einstein. Elles ont toutes été conçues par le cerveau. Tout était confirmé par l'expérience par la suite. Les journalistes s'étaient emparés de cette expédition et ont voulu savoir si Einstein était finalement un hâbleur ou si c'était véritablement un génie. Et si qui s'était prouvé par l'expérience, il n'y avait plus de doute, c'était le plus grand génie qu'on pouvait avoir sur Terre. Et dès qu'ils ont appris les résultats, les journaux du monde entier ont relaté la performance inouïe, un des expérimentateurs, et surtout d'Einstein, qui du jour au lendemain est devenu célèbre. Chose curieuse, là où il a été le plus célèbre instantanément, c'est en Allemagne, le pays qu'il a persécuté, où il y avait le plus de gens qui étaient préparés, qui étaient prêts. Les Américains, ils sont un peu passés à côté. Les Anglais un peu passés à côté, quant aux Français. En 1921, il est invité à Vienne. 3000 personnes pour écouter un savant vous parler de la relativité. Einstein avait beaucoup d'humour et il était capable de fasciner un auditoire en trouvant des exemples extraordinaires. Je vais vous en citer quelques-uns tout à l'heure. En 1923, prix Nobel de physique pour l'effet photoélectrique. Vous rendez compte, prix Nobel de physique à 44 ans. Mais quand vous le voyez sur les photos, 44 ans, on a l'impression qu'il en fait 10, 15 de plus. Il va travailler le restant de sa vie sur la théorie des grandes unités. Il n'y avait qu'une seule force au moment du Big Bang. Et à partir du moment du Big Bang, vous allez avoir l'électromagnétisme unifié par Maxwell, électrique et magnétique. Les interactions faibles, c'est-à-dire la désintégration radioactive. Les interactions fortes, c'est-à-dire l'énergie colossale qui retient les quarks entre eux avec les gluons. Et enfin la quatrième, la gravitation. Ce qu'il voulait, c'est réunir les quatre forces. Et là, il y a quelque chose qui est stupéfiant. C'est que les forces qui gèrent cette sorte de gravitation de type einsteinien sont pratiquement impossibles à visualiser, à quantifier, tellement elles sont faibles. Ce qui gère l'immensité de l'univers est d'une telle faiblesse qu'on n'arrive pas à le mesurer. On pense qu'il y a des gravitons, et les physiciens essaient de mettre au point des appareils qu'on appelle des gravitomètres pour les détecter. Mais par contre, les forces les plus colossales qui existent se trouvent dans l'infiniment petit. Ce sont celles qui réunissent les triplettes de quarks entre elles.